Tu lui dis de mettre le 102.2. La plus rebelle des radios. La plus rebelle des radios. Wow.
C'est gros, c'est bleu, ça fait pas de bruit, ça se cache derrière le cimetière la nuit. Ça te surveille, ça te suit, ça te guette. Même si tu portes une casquette, c'est derrière toi quand tu conduis. Ça veut débattre ton permis, ton vol volé et ton fichier. C'est tout le temps vénère et c'est mal poli. Ça te saute à la gueule comme une grosse bête. Un monstre chelou avec trois têtes. Prends une machine dans une estafette. C'est quoi? C'est quoi?
C'est ta mise en faux.
Canu, donne-moi des infos.
C'est 102.2, la radio plus ribelle.
Paniquez pas, niquez tout.
Et ouais, paniquez pas, niquez tout, Radio Canu confiné, déconfiné, Radio Canu dans les studios, Radio Canu qui fait du Larsen, c'est super. On s'entend sur Radio Canu, c'est formidable. Et du coup, c'est le Canu Info du vendredi qui commence, on doit être le 29 mai. Et pour la première fois depuis 2 mois et demi, les animateurs, les animatrices du Canu Info du vendredi sont dans les studios pour vous parler de quoi.
Yeah.
Pour vous parler de quoi, oui, donc.
Ah ouais, de
pour
quoi.
Vous parler en premier d'un reportage avec des nouvelles de Radio DC.
Et ensuite, on continuera sur un reportage sur la mobilisation pour l'hôpital public.
Et on enchaînera avec des nouvelles de Gérard Collomb.
Puis on ira vous parler d'un appel à dons pour soutenir le marché rouge de la Guillotière.
Et puis on ira ensuite au collège sur la Croix-Rousse, un lieu où vivent des exilés entassés pendant le confinement.
Et bien sûr, Radio Canu et le Canu Info du vendredi parlent aussi du national avec la loi Avia et le début de la censure, pas chouette.
Une rubrique nucléaire avec la centrale du budget condamnée.
Et puis aussi un autre sujet sur la centrale du Trigastin, parce que figurez-vous, il n'y a pas que la centrale du budget.
Et on fera une rubrique sur ce qui se passe en ce moment à l'international dans le Minnesota et où des violences policières ont lieu.
Rubrique féministe ensuite, on vous parlera de l'appel à une journée d'action féministe le 8 juin.
Et puis on terminera ou presque avec l'agenda, puisqu'il paraît qu'il y a des choses qui se passent. Et donc on va pouvoir réouvrir une séquence agenda, c'est quand même formidable ce déconfinement.
Super. Et figurez-vous que Radio Canu, pendant le confinement, a découvert qu'on pouvait intervenir avec les auditeurs et les auditrices. Et du coup, on vous propose de finir comme d'habitude par un ACAB. Et là, d'écrire, d'envoyer un ACAB et de nous appeler pour proposer un ACAB au 04 78 39 18 15. 04 78 39 18 15. Attention, c'est pas le même numéro pour le répondeur.
Et alors, vous pouvez faire un petit jeu parce que là, on est quand même assez nombreux et nombreux dans les studios. On n'a pas tous un masque, alors essayez de deviner. Quelle voix porte un masque? Quelle voix n'en a pas? Bonne écoute sur le 102.2. On part sur les infos locales.
Reportage sur le rassemblement qui a eu lieu à Lyon cette semaine.
Du Rhône de la région qui s'appelle Stéphane Boulay.
En région lyonnaise, plus précisément à Pierre-Bénite.
Pour savoir où est-ce qu'on en est, la lutte des instits à Voix-en-Velin.
Ce reportage sur la grève qu'on a dit à les
interjoués
sur
la
rassemblement pour le de Lyon.
Canu Info du vendredi. Rubrique locale.
Et on commence avec un petit entretien qu'on a tourné à Saint-Julien-Molin-Molette. Quel nom de village, enfin de bourg même. Saint-Julien-Molin-Molette, donc, où des nazis ont attaqué une radio camarade. On vous laisse écouter cet entretien.
Radio d'ici. Paix comble.
C'était le dimanche 10 mai. Très tôt le matin, c'était autour de 6h, il y a une personne qui a été vue, peut-être deux, des militants d'extrême droite qui ont brisé des verrous pour pouvoir rentrer, et puis qui ont détruit le studio à coups de marteau, puis qui ont vidé un extincteur, ce qui a rendu la plupart du matériel complètement inutilisable. Des croix gammées ont été taguées sur les murs, sur des casiers, et des messages de haine.
Canu Info du vendredi.
Bonjour, je m'appelle Morgan et je suis l'un des salariés de Radio D'ici. C'est une radio qui est née à Saint-Julien-Molin-Molette, dans la Loire. Elle existe depuis 1996. Elle a commencé avec une fréquence, donc 105.7, autour de Saint-Julien. Et petit à petit, elle en a eu une autre à Bourg-Argental, pas très très loin, et une autre dans le Nord-Ardèche, à Annonay.
Vous êtes à l'écoute de Radio D'ici.
Moi, ça fait très longtemps que je suis bénévole à Radio D'ici, parce que la radio a été fondée en partie par l'un de mes parents. Donc je baigne dans la radio depuis que je suis tout petit. En fait, l'histoire de la radio est liée à l'histoire de cette maison. C'est une ancienne école qui a été achetée par plusieurs personnes qui font de la radio et qui avaient envie de faire une radio ensemble. Et petit à petit, avec tous les bénévoles qui se sont greffés, c'est resté quelque chose de collaboratif, de commun et qui appartient à tout le monde. Il y a pas mal de militants, d'associations écologiques, des bénévoles féministes qui font une émission. Plus récemment, pendant le confinement, on a aussi fait des émissions où on s'intéressait justement à la situation des immigrés, des travailleuses et des travailleurs du sexe, des minorités sociales, comment eux vivent le confinement, on a parlé de ça. Est-ce que c'est ça qui a pu déclencher ça? Bon, on ne peut pas vraiment le savoir. On n'a pas eu de menace, mais on n'est pas surpris parce qu'effectivement, quand on se promène, on ne les voit pas. Mais quand on vit à Saint-Julien, dans la Loire, dans le Pilat, on sait qu'il y a des gens qui sont des militants d'extrême droite, qui sont très engagés, des gens qui ont été retrouvés avec des armes chez eux, qui étaient impliqués dans des petits groupuscules. Puis un jour c'est des tombes, un jour c'est des clodos, c'est des immigrés, et puis pourquoi pas une radio associative de gauche. On n'a pas été boiteux très longtemps. 24 heures plus tard, on a pu se remettre à diffuser. On a eu de la chance, ils n'ont pas touché l'ordinateur de diffusion. Il était un petit peu dans un coin du studio, ils n'ont pas dû le voir. Après, les tables de mixage ont bien ramassé, mais les circuits étaient intacts. Donc en fait, en rebranchant quelques prises, en faisant quelques bidouillages, on a pu réémettre assez rapidement. Voilà, on ne peut pas faire de direct. Il faut qu'on rachète pas mal de matériel. Il y en a pour entre 20 et 30 000 euros et beaucoup de propositions d'aide, de propositions de prêts de matériel, des autres radios associatives, dont Radio Canu, et puis une cagnotte qui a été mise en place et pas mal de gens ont participé. Ouais. Comme pour toutes les radios, des fois il y a une routine qui s'installe, on tombe dans des habitudes, on voit les mêmes personnes, on se pose des questions sur... Qui écoute, qui est-ce qu'on touche, et ce genre d'événement, ça a relancé tout ça. On a vu qui était là, qui nous écoutait, qui nous soutenait, pour qui c'était important que la radio existe. Et en fait, ça nous a tous remotivés, quoi. Au final, ça a eu l'effet complètement opposé de ce que recherchaient ces mecs. Il n'y a que du matériel qui a été brisé, personne n'a été blessé. Donc au final, je pense qu'il n'y a que du positif qui va ressortir de tout ça. J'espère en tout cas.
Voilà, que du positif, on espère qu'il va sortir de tout ça, de bonnes nouvelles donc de Saint-Julien-Molin-Molette. Et si vous voulez donner de la thune, un petit peu de thune, parce qu'ils vont en avoir besoin, ils ont à peu près entre 15 et 20 000 euros, voire plus de dépenses en matériel, il y a possibilité de donner, il suffit de taper Radio D'ici dans votre moteur de recherche préféré, vous tomberez sur leur page internet, et là, tout vous sera expliqué pour faire un don. Et de Radio D'ici à Saint-Julien, on va à Lyon, parler de l'hôpital public.
Et oui, vous parlez des mardis de la colère, parce que pénurie de matériel, manque de lits, salaire de misère, il est clair que les applaudissements à 20h ne suffisent pas. Aujourd'hui, les personnels hospitaliers ont besoin de soutien partout en France et ils et elles appellent à des rassemblements les mardis. Même pendant le confinement, il y a eu des rassemblements au Vinatier et des mobilisations. Et depuis 2 semaines, des mobilisations ont lieu et devant le Vinatier et devant l'hôpital Édouard Herriot. On était, en tout cas des personnes de Radio Canu, étaient mardi dernier, mardi 26 mai, à 13h30 pour un rassemblement revendicatif et un appel au soutien des usagers et des usagères à l'hôpital Édouard Herriot.
On vous laisse écouter.
Oui, pas de soucis.
Oui.
Ouais. Vous travaillez à Édouard Herriot ?
Oui, je travaille en service de réanimation. D'accord. Au pavillon H, réanimation médicale.
D'accord. Et pourquoi vous êtes là aujourd'hui ?
Pour nos revendications, augmentation de salaire, plus d'effectifs, meilleures conditions de travail, plus de matériel, enfin, tout ce qu'on demande depuis des années déjà.
D'accord. Et là, pendant la crise, Macron, il a dit plusieurs fois que l'hôpital, c'était plus une marchandise, qu'il allait mettre de l'argent. Qu'est-ce qu'il a fait pour le moment?
Pour l'instant, il n'a rien fait. Par exemple, le port du masque, c'est toujours rationné, son compte-gouttes. On est censé garder nos masques entre 4 et 8 heures. Donc, c'est... De toute façon, les masques, c'est un véritable fiasco. On en est toujours à ce que ça soit rationné, donc on attend.
Mesdames, messieurs, encore bonjour. Merci à tous d'être là. Je vous rappelle juste de bien respecter les distances, s'il vous plaît. Merci.
J'imagine que normalement, vous êtes concerné par la prime.
Oui, tout à fait.
Est-ce que vous l'avez déjà perçue et...
Non, pas du tout. Non. Il me semble que, si je ne dis pas de bêtises, le décret est passé, mais qu'elle serait versée, je crois, en juin, quelque chose comme ça. Mais pour l'instant, non, on n'a rien perçu.
D'accord. Et qu'est-ce que vous en pensez de cette prime?
Nous, ce n'est pas des primes qu'on demande, c'est une augmentation de salaire. Parce qu'une prime, c'est un caractère exceptionnel. Donc oui, on ne va pas cracher dessus. Si j'ai 1 500 €, je serais contente, mais ça ne va pas me réconforter. Et surtout, ça, je veux dire, ça n'enlèvera pas le combat qu'on mène au quotidien. Voilà, nous, ce qu'on veut, c'est une augmentation de salaire, c'est pas une prime.
D'accord.
Nos vies valent plus que des primes. Moi, j'ai travaillé en unité Covid, donc on a reçu des patients Covid. Donc, ça a été quand même assez intense, assez soutenu. Mais ça s'est fait, on va dire.
Votre gouvernement, le souci aujourd'hui des inégalités sociales, des inégalités scolaires, il aura fallu une pandémie pour que cela vous interpelle. Arrêtez de nous prendre pour des fous. Les inégalités existent depuis des années. Et qu'avez-vous donc fait, vous et vos prédécesseurs? Absolument rien, à part enrichir les plus riches et appauvrir les plus pauvres. On réduit le nombre de lits dans les hôpitaux. On réduit le nombre de personnels. On réduit le nombre d'enseignants. On surcharge des classes pour nos enfants. On instaure des lois sur le travail pour enrichir les plus riches et maltraiter les plus petits. Mais aujourd'hui, les plus petits vous ont montré que sans vous, mais sans vous, je ne sais pas plus. Nous n'avons pas oublié les premières mesures prises par votre gouvernement. L'annulation de l'ISF, votre épouse qui décide de changer toute la vaisselle de l'Élysée, alors que certains n'ont même pas de quoi mettre quelque chose dans leur assiette.
Par ses réponses, le gouvernement a affiché son mépris. Une nouvelle fois, prime, et encore pas pour tous et toutes, médaille, défilé le 14 juillet pour apprendre à marcher au pas, demande de dons de congés par d'autres salariés, c'est vraiment du foutage de gueule. Toulouse, Paris, Lyon, Saint-Étienne, Nantes, Rennes, Thonon, aux quatre coins de la France, la colère des hospitaliers et des hospitalières s'exprime et sort des services, avec le soutien de vraiment beaucoup de personnes. Car la volonté du gouvernement, c'est poursuivre la casse de l'hôpital public qui se fait à nos dépens, avec comme point de mire la destruction de la sécurité sociale. Du coup, aujourd'hui, les agents hospitalières demandent l'embauche de personnel, l'assurance de la réouverture de lits fermés durant la crise, l'arrêt total de la politique de fermeture de lits pour redonner à l'hôpital sa mission de service public, tout le matériel nécessaire pour nous protéger et prendre en charge les patients et les patientes, le dépistage pour tous et toutes les personnels avec tests et sérologie. Le gouvernement n'a pas écouté la grande mobilisation du monde de la santé, des EHPAD, du secteur médico-social et de la psychiatrie qui est bien antérieure à la pandémie de Covid-19 et doit aujourd'hui payer ses innombrables manquements. La liste est trop longue des mensonges, des coups de com', des ségures, des tentatives de division par des primes, des manipulations d'un président qui fuit ses responsabilités en permanence. La liste est trop longue des soignants et des soignantes, des patients et des patientes, morts du Covid-19, à l'hôpital, chez eux ou en EHPAD, des personnes contaminées, des personnes épuisées, des travailleuses sous-protégées, des premières de corvée en première ligne, majoritairement des femmes, qui ont tenu le pays malgré le mépris. La liste est très longue des solidarités, des citoyens et des citoyennes et des travailleurs travailleuses auto-organisés, palliant en permanence au manquement des dirigeants. L'objectif de cette mobilisation est aujourd'hui de gagner un système de sécurité sociale, de santé et d'action sociale, entièrement sorti de la logique marchande et géré démocratiquement comme à leur origine. Et du coup, là, c'est tous les mardis, que ça s'appelle les mardis de la colère, c'est partout en France. Et du coup, à Lyon, c'est et devant l'hôpital Édouard Herriot et devant la direction de l'hôpital du Vinatier que les personnes se rejoignent, se soutiennent. Et ça, c'est jusqu'au 16 juin, parce que le 16 juin, c'est aussi un mardi. Il y aura une grosse manifestation qui sera nationale à 14h, une manifestation pour la santé et avec tous les autres secteurs des services publics.
Et à Lyon, il y a toujours... Sauf que, plus du tout. Gérard Collomb, c'était dégueulasse.
Et oui, parce que Gérard Collomb... Putain, je vais mourir avec ce masque.
Ah ouais, mais là, tu
non,
la
je le garde. Non, je vais y arriver. Mais oui, mais parce que c'est vrai que sur Radio Canu et dans le Canu Info du vendredi soir, en général, on peut avoir tendance à souvent, voire parfois, dire un peu rapidement que Gérard Collomb, c'est dégueulasse. Et puis ensuite, on se dit quand même, bon, il est peut-être sympa et tout. Et à chaque fois, quand même, il nous rappelle.
On se dit jamais ça.
Mais ça peut arriver, on se dit, bah, le pauvre, il est vieux, mais tout, on sait pas.
Non, tu arrêtes.
Bon, mais parce que c'est vrai que Gérard Collomb, on a oublié que c'était quoi Gérard Collomb. Le système Gérard Collomb, c'était des magouilles, des cumuls de mandats qui d'ailleurs lui avaient valu des amendes au Sénat, la mainmise sur le Citral, sur toutes les sociétés d'économie mixte de Lyon, notamment celles chargées du coup de l'aménagement urbain, des hôpitaux. C'est aussi du coup bah, la transformation d'un hôpital public en centre commercial de luxe, la transformation de la ville en mode gratte-ciel et gentrification pour les multinationales. Rappelez-vous du coup la Tour Une Cité, Confluence, le musée des Confluences, les magouilles pas possibles avec Colas pour le Grand Stade et tout et tout et tout, la piscine du Rhône, comment on transforme une piscine ouverte à tous et tous en un gâteau pour riches. Mais Gérard Collomb, c'était aussi la protection à peine voilée des groupuscules et des locaux d'extrême droite, la chasse aux migrants et aux migrantes, l'expulsion par les forces de l'ordre de tous les campements, la surveillance de masse dans les rues et dans les transports en commun, un acharnement répété contre les travailleuses du sexe en multipliant les arrêtés municipaux contre les camionnettes. Et ouais, Collomb, du coup, c'était effectivement un homme de gauche, on se rappelle, élu au PS. Enfin, Collomb, c'était surtout un homme de pouvoir, finalement. Et c'est, il nous l'a vachement montré, du coup, cette semaine. Parce que jeudi 28 mai, dans l'après-midi, Gégé a confirmé publiquement son ralliement à LR, pardon, pas à LRM, à la droite, en fait. Oui, voilà, parce que Gérard Collomb a retiré sa candidature de la présidence de la métropole de Lyon. Et il a cédé sa place à la tête de liste des Républicains. Donc, c'est François-Noël Buffet, on s'en fiche un peu, mais en tout cas, voilà quoi, c'est que Gérard Collomb se retire de la métropole pour que les Républicains puissent prendre le pouvoir sur la métropole, et en échange, la droite retire la candidature de son candidat à la mairie au profit de Yann Cuchera, qui est un peu le poulain de Collomb. Et du coup, ce pacte, c'est pas scellé comme ça tranquillement, mais c'est scellé en fait dans une réunion entre l'ancien ministre de l'Intérieur et Laurent Wauquiez. Du coup, Laurent Wauquiez, on se rappelle, le président de la région Auvergne-Rhône-Alpes, qui, pareil, est pas formidable. Et donc, pourquoi il a fait ça, Collomb ? Et bah, parce qu'en fait, face à sa probable défaite aux élections municipales, face à Europe Écologie Les Verts, il a fait alliance avec les Républicains. Donc, c'est-à-dire que Collomb, il avait déjà trahi le Parti Socialiste pour rejoindre En Marche quand il a senti que le PS allait s'effondrer. Et puis ensuite, il avait trahi En Marche quand il sentait qu'il perdait Lyon. Et voilà, maintenant il finit par s'allier avec son ennemi politique de ses tout débuts pour sauver sa gueule. Donc du coup, il y a une espèce de conférence de presse un peu seul où les nouveaux partenaires, du coup, les partisans de Collomb et les Républicains, ont invoqué comme ça la tradition lyonnaise indépendante des appareils au nom de l'intérêt supérieur commun. Donc par exemple, il y avait des petites phrases comme « Avec la crise économique et sociale qui se profile, il vaut mieux des gens qui ont l'habitude des responsabilités. » Sous-entendu, du coup, on gouverne depuis 40 ans, alors faut nous laisser tranquille. Et puis de même, il y avait « La deuxième ville de France ne peut veut pas devenir un petit laboratoire de la décroissance ni un lieu d'expérimentation idéologique hasardeuse pratiquée par des apprentis. Du coup, là, de qui il parle? Il parle des candidats Europe Écologie Les Verts qui sont arrivés en tête des élections municipales. On se rappelle que les candidats Europe Écologie Les Verts sont pas forcément des partisans ou des partisanes de la décroissance. Ils avaient organisé du coup le 11 mars une ridicule marche sécuritaire à la Guillotière. Et du coup, dans le même temps, Gérard Collomb, il est plus président, il est plus candidat nulle part, et LREM lui retire son investiture à ses candidats et tente de se reporter sur Kiemelfeld. Donc en fait, on s'en fiche un petit peu de tout ça, c'est des histoires politiciennes ou quoi, mais surtout, c'est la fin d'un monde où Collomb essayait de faire croire qu'il était de gauche. Il quitte le pouvoir, non pas en proposant une autre alternative pour la ville, mais au contraire, en offrant sa ville à Laurent Wauquiez aux Républicains. Sympa, on peut se rappeler quand même que Laurent Wauquiez, c'est dégueulasse, ça marche tout à fait aussi. Et pour info, c'est bientôt, on est le 29 mai, le 20 juin, c'est l'anniversaire de Gérard Collomb. Alors je sais pas, est-ce qu'on pourrait pas aller chanter sous ses fenêtres Gérard Collomb, c'est dégueulasse.
Gérard Collomb, c'est dégueulasse. Mais oui, tout à fait, et heureusement il se passe autre chose que Gérard Collomb à Lyon. Et notamment pendant le confinement, mais évidemment bien avant, beaucoup de gens se sont organisés entre elles, eux, pour, comme on l'a dit tout à l'heure, pallier aux services publics que l'État ne fournit plus, mais aussi pour proposer autre chose, et notamment un monde plus auto-organisé et horizontal. Là-dedans, il y a les marchés rouges. Après 2 mois de confinement et l'arrêt de son activité sur la Guillotière, le marché rouge reprend donc du service, ou ça, à l'espace communal de la Guillotière, qui se trouve au 45 rue Béchevelin. Plus que jamais déterminé à fournir des légumes pour pas cher. Alors, comment s'y rendre l'espace communal de la Guillotière? On vous en avait déjà pas mal parlé avant le confinement. Du coup, c'est un espace, un bâtiment qui a été réquisitionné par un collectif d'habitants et d'habitantes et d'habitués du quartier en vue d'en faire un lieu d'entraide, de rencontre et d'organisation, du coup, sur la Guillotière. Et actuellement, tous les jeudis de 17h à 19h, il y a une distribution de légumes à prix coûtant ou gratuit qui permet de continuer à manger pour pas cher pour les prochains mois. Donc le principe restant le même, l'idée c'est de se doter d'un outil pour s'approvisionner à l'échelle du quartier, en récupérant des légumes auprès de producteurs ou de productrices, ou du marché de gros, et de les redistribuer donc à l'espace communal de la Guillotière. Cette initiative prend aujourd'hui encore un peu plus de sens, au regard de la situation de précarité dans laquelle bon nombre de personnes vont se retrouver, ou se trouvent déjà ces prochains mois. Donc se doter d'un outil pérenne pour pouvoir s'alimenter collectivement, de manière régulière, et pour pas cher, devient une perspective désirable et de plus en plus partagée. Au bas mot, le collectif distribue en cette période de déconfinement quelques 200 kilos de légumes chaque semaine. Vu la situation de précarité grandissante, cette quantité est appelée à très vite augmenter. Et du coup, qu'est-ce qui se passe? Il se passe que ce collectif a que des petites voitures, et que ces petites voitures ne vont bientôt pas suffire pour transporter les palettes de légumes qui commencent à pouvoir récupérer à droite et surtout à gauche. Et donc, qu'est-ce qui se passe? C'est qu'ils veulent un camion. Et oui, pour eux, l'absence d'un camion adéquat est aujourd'hui le seul frein à l'accroissement de leur petite organisation. Et nous, on a bien envie de relayer leur appel. Et donc, ils cherchent un camion. Ils nous précisent que si c'est un partenaire ou je ne sais plus trop quoi exactement, en tout cas, on peut les contacter directement. Mais que sinon, ils ont créé une cagnotte en ligne pour les aider à financer ce camion. Donc, à l'espace communal de la Guillotière, comme en bien des lieux, la résistance, elle s'organise. Et donc, voilà, si vous voulez les aider et si vous voulez aider le marché rouge, vous pouvez vous rendre sur le site rebellion.info où vous retrouverez cet appel à don et donc le lien sur Hello Asso pour les soutenir et leur fournir un camion. Vous pouvez aussi, si vous avez un camion, les contacter. Du coup, vous trouverez aussi sur rebellion.info leur contact pour leur proposer votre aide. Pour vous dire aussi qu'on vous en a déjà parlé pendant le confinement, mais c'est dans plein de quartiers que les gens se sont auto-organisés. À Villeurbanne, il y a eu par exemple le collectif Solidarité QSEC qui continue aussi après le confinement à faire des distributions. Ça, c'est les habitants et les habitantes du quartier QSEC à Grand-Clément à Villeurbanne qui sont organisés avec un collectif solidaire afin de faire face à la situation sociale et sanitaire, qui ont déménagé, attention, depuis aujourd'hui. Ils sont plus au centre social, mais on les retrouve à la maison Jean-Pierre Audouard au 256 rue du 4 août 1789. Et eux, on peut les retrouver le mardi de 16h à 19h pour une permanence conviviale de rencontres, d'échanges, d'évaluation des besoins des personnes et d'aide éventuelle à de l'administratif simple. Et vous les retrouvez aussi le jeudi de 16h à 19h pour aussi une permanence de distribution alimentaire. Il y a des brigades populaires qui sont aussi montées sur Croix-Rousse et je n'ai pas d'informations très précises, mais peut-être elles continuent, peut-être pas. Mais tout ça pour vous dire que l'auto-organisation, ça continue après le confinement et qu'il y a plein de manières de se mobiliser ensemble en ces périodes où c'est parfois compliqué de faire des grosses manifs.
Et l'auto-organisation, comme tu le disais, c'est aussi réquisitionner des lieux. Il y en a pas mal, des réquisitionnements à Lyon, et c'est normal parce qu'il y a plein de lieux vides qui sont aussi chauffés l'hiver, par exemple, et qu'il y a plein de gens à la rue. Et il y a notamment un peu moins de 2 ans, sur le plateau de la Croix-Rousse, un collège chauffé et vide a été réquisitionné pour loger des exilés. Alors, c'est super parce que ça a offert un toit aux personnes, mais ces personnes, évidemment, elles vivent dans des conditions qui sont pas terribles. Et en période de confinement, bah, c'est pas forcément facile. Alors, on a tendu notre micro à un de ses habitants, Mustapha, qui nous a fait visiter le collège et qui nous parle de ses conditions de vie pendant ces 2 mois de confinement et au-delà.
Bien. I want to come out here. I want to go away from here.
Here is your house, first.
Yes, my first house in France. But they say it's not nice.
Indeed.
We don't want to live here because here it's very bad in this corona. How many people can live in one room? Yeah. It's too much. Yeah.
Il dit, normalement, ici, c'est son habitat, mais il a envie de quitter ici. Avec le corona, il y a 100, il y a 200 personnes qui habitent ensemble. Ce n'est pas vraiment appréciable. Donc, ça risque de contaminer pour au moins sa santé. Ouais. C'est parce qu'on est nombreux. Respecter le confinement, c'est chaque personne, 1 mètre de distance. Mais nous, par exemple, dans d'autres situations, on n'arrive pas à avoir l'opportunité. On a vraiment envie. Et besoin, mais on n'a pas l'opportunité, parce que ici d'ailleurs, c'est un squat, donc c'est vraiment le bazar, c'est pour cela que ça dit squat.
Canu Info du vendredi.
Mon nom de famille c'est Soare et mon prénom c'est Mustapha. Je suis né le 3 mars 1997 et je viens de la Guinée-Conakry, donc en un seul mot je suis guinéen et ça fait 2 ans, 3 mois je suis en France. Je suis arrivé par la voie illégale parce que j'ai passé par la Guinée, le Mali Bamako, le Burkina Faso, le Niger, arrivé en Libye. Et là, je suis resté 1 an, 4 mois et après j'ai entamé encore la route pour continuer. Je suis rentré par l'Italie, précisément à Sicilia. Et après, j'ai continué en France parce que mon pays est une colonie française. Pour arriver en France, d'ailleurs, je suis passé par Briançon, Grenoble et je suis arrivé à Lyon. Et dès que je suis arrivé à Lyon, j'avais beaucoup d'espoir, l'espoir d'avoir les papiers dans 1 mois ou dans 2 mois. Mais après, je suis resté, j'ai compris le système. Il faudrait la patience parce que là, ça fait 2 ans, 3 mois depuis que j'ai commencé. Actuellement, je suis à la fin de mes démarches administratives en France ici et je n'ai pas encore les papiers. Et mes conditions de vie, je vis dans des squats. Avant, j'étais à l'Amphi-Z, ça c'est à QC. Je suis resté 9 mois. Et après cela, ça a fermé. Je suis revenu à la Croix-Rousse dans le squat Maurice-Ève. Là, ça fait 1 an, 4 mois, je suis là. Nous sommes devant le bureau des associations qui viennent en aide. Et là, c'est l'école et l'atelier de couture. Salam alaikum. Et on ressort, il y a le magasin de la bouffe ici. Et là, c'est la mosquée. On n'a pas mis beaucoup d'aménagement, on a juste mis des tapis et les aires de prière. Simplement, on vient, on prie pour ne pas rester sans adorer le bon Dieu. La salle de cinéma, en fait, c'était ici, mais actuellement, il y a beaucoup de jeunes qui viennent d'arriver. On a fait un grand salon, on les a logés. Et là, par exemple, c'était le magasin des vêtements, vestiaire où on ramène des vêtements pour nous qui pouvons acheter à chaque fois pour ne pas dépenser trop d'argent. Tu viens, tu choisis, tu prends, c'est gratuit en fait. Et là, c'est la grande esplanade où on peut venir se reposer, chanter, danser comme on veut. C'est juste l'esplanade de la cour, mais avec le bazar, les poubelles, tout ça, c'est à débarrasser après. Pourquoi pas, hein? On arrive à rendre le lieu propre, on essaie de faire le maximum d'images. Il y a les référents qui passent dans chaque chambre, de sortie, il y a le nettoyage, c'est obligatoire. Il y a les référents, ils ont été choisis par nous dans l'organisation du bâtiment et on a voté pour eux. Il y a les associations, il y a les cuisiniers, c'est eux qui s'organisent, qui savent quoi faire. Parce que ça fait 1 an, 8 mois le bâtiment est là, mais chaque jour ils sont prêts chaque jour, ils cuisinent pour tout le monde. Et sauf si toi, tu ne ramènes pas ton assiette, mais eux, ils font leur boulot. Ici, quand tu ne fais rien, tu ne travailles pas, personne ne va te connaître et tu n'auras pas l'opportunité ni la possibilité de te faire aider par qui que ce soit. On te laisse dans ta chambre, mais c'est comme si tu ne parles pas.
Hé, hey, Beressé, Mira. Tony. Lui, par exemple, c'est le premier référent jusqu'à présent. Il a le maximum de respect. Donc, et là, c'est, on arrive à la cuisine et la salle à manger. Salam alaikum. Là, c'est la cuisine, par exemple. Le jour d'une cuisine du riz, je suis vraiment content.
Au fait, vivre en squat, c'est bon, tu as un logement, tu vis dans une chambre, au moins tu es enfermé, tu es au chaud, c'est différent de rester au dehors. Mais dans les squats, tu es obligé de rester avec 10 personnes dans une chambre, et chaque fois il y a des petites murmures, ça peut faire des embrouilles, on ne sait pas à quel moment ça peut dégénérer, donc c'est tout ça vraiment, je n'en peux plus de vivre dans des squats, j'en ai marre, j'aimerais avoir une maison où je pouvais vivre seul, pour au moins réfléchir à ce que je dois faire parce que j'ai plein de projets en tête. Je sais réellement seulement les papiers qui m'attardent. Si j'ai ça tout de suite, je suis capable de faire beaucoup de choses, vraiment. Et là, comme les toilettes étaient désorganisées, nous ont ramené 3 conteneurs pour ne pas au moins qu'on reste au dehors à faire des déchets. Et là aussi, c'est la grande salle de musique, de tout, du théâtre. Mais actuellement, on a tout enlevé avec le confinement. En période de confinement, les gens qui meurent, et tu as peur pour toi-même, tout le monde a peur pour lui en fait. Donc j'étais obligé de respecter les consignes. J'ai un masque, j'ai l'eau de javel pour m'essuyer les mains, j'ai du sopalin pour nettoyer toutes mes tables de la chambre, au moins la balayer en fait. Mais avant, j'étais contre tout ce qui venait de l'hôpital, mais je n'avais pas le choix. Parce que même les masques, je disais, tout ce qui vient de l'hôpital, ça risque de contaminer. Mais au moins, j'arrive à comprendre le système. Je me suis fait embêter par la police. Parce que j'étais devant la Biocoop, le magasin. C'était un peu la gueule, faire la manche. C'est la galère. C'était la galère, je vais là-bas, j'ai quelques amis peut-être que je peux voir à la Biocoop qui pourront me dépanner. Donc les policiers m'ont vu, ils étaient vraiment inquiets, qu'est-ce que je cherche, parce qu'il y a 2 distributeurs là-bas. Peut-être ils ont peur que ça ne trouve pas que c'est les 2 distributeurs qui sont venus au foncier pour se faire sortir de l'argent. Donc j'ai compris, je les ai bien répondu. Juste ça, après je les ai montré mon autorisation, ça s'est bien passé.
Au moins, j'essaie d'accomplir les projets que j'ai en tête, mais à vivre dans le bazar, c'est très très compliqué pour moi. Je ne pourrais pas. Je ne pourrais pas et je ne pourrais pas. Voilà. Et c'est la fin de la visite, enfin.
Rubrique nationale.
Je ne céderai rien, ni aux fainéants, ni aux cyniques, ni aux extrêmes.
Il y a d'un côté un nouveau totalitarisme, et c'est nous.
C'est pourquoi j'ai décidé qu'en novembre prochain, nous sortirons de l'état de droit.
Et du côté du national, maintenant, on n'avait toujours pas eu l'occasion de vous parler de la loi Avia, et quand même, on a bien envie de vous parler de la loi Avia parce que elle nous angoisse un peu, elle nous fait chier, et c'est une loi qui a été votée il y a 15 jours qui va changer un peu ce qu'on a le droit ou pas de raconter. Et c'est déjà le cas puisque des comptes de militants LGBT ont été suspendus pour avoir utilisé le mot PD. Et oui, depuis une semaine, une quinzaine de militants LGBT et activistes de la lutte contre le sida ont vu leurs comptes Twitter et Facebook suspendus, après donc l'emploi du mot PD, dans des publications. C'est une situation qui en fait préfigure ce qu'entraînera la loi Avia, donc c'est la loi qui est dite contre la haine, en ligne lorsqu'elle sera appliquée. Et malheureusement, elle va être appliquée bientôt. Alors, pour rappel, qu'est-ce que la loi Avia ? Alors, l'Assemblée nationale a approuvé en lecture définitive la proposition de loi contre la haine en ligne. Elle prendra effet le 1er juillet, ça veut dire demain, quoi. Laetitia Avia, qui a été gravement mise en cause pour ses propos sexistes, homophobes et racistes, est quand même parvenue à faire voter définitivement sa proposition de loi le 13 mai, après un long parcours parlementaire. Concrètement, le texte de loi oblige les plateformes ayant une forte visibilité, donc là vous pouvez entendre Twitter, Facebook et autres plateformes de réseaux sociaux, à réagir en l'espace de 24 heures en cas de signalement concernant un contenu qui est, je cite, « manifestement illicite ». L'urgence de La République En Marche est de donner à la police de nouveaux pouvoirs pour lutter contre le terrorisme sur Internet. Cette loi, initialement présentée comme une loi contre la haine, s'est transformée dans sa réécriture en janvier dernier en une loi antiterroriste, telle qu'on en connaît depuis des années, de plus en plus éloignée du principe de séparation des pouvoirs. Une nouvelle obligation vient éclipser le reste de la loi qui a été ajoutée dans le paragraphe 1 de son article 1. Elle exige que tous les sites web, pas uniquement les plateformes géantes, censurent en une heure, donc vraiment en une heure, pas en 24 heures, des contenus signalés par la police, comme relevant du terrorisme, sans que cette qualification ne soit donnée par un juge, mais par la police seule. Donc si le site ne censure pas le contenu, donc vraiment bah, pour vous refaire le contexte, vous publiez quelque chose sur un site qui est jugé par la police comme relevant du terrorisme, vous avez une heure pour l'enlever. Et donc si vous ne le faites pas, donc si le site ne censure pas le contenu, par exemple car le signalement est envoyé un week-end ou pendant la nuit, la police peut exiger son blocage partout en France par les fournisseurs d'accès à Internet. Donc on entend Orange, SFR et globalement les fournisseurs que vous utilisez sûrement actuellement pour vous connecter à des sites Internet. On se rend compte qu'avec cette loi, la séparation des pouvoirs est entièrement écartée. C'est la police qui décide des critères pour censurer un site. Donc en droit, on rappelle que la notion de terrorisme est suffisamment large pour lui donner un large pouvoir discrétionnaire, par exemple contre des manifestations. C'est la police qui juge si un site doit être censuré. C'est la police qui exécute la sanction contre le site. Le juge est complètement absent de toute la chaîne qui mène à la censure du site. Alors quand même, lundi dernier, après le vote à l'Assemblée, des sénateurs républicains, alors je note républicains, ont saisi le Conseil constitutionnel contre la loi Avia, donc qui a définitivement été adoptée ce 13 mai. Le Conseil constitutionnel va donc se prononcer dans les semaines à venir, notamment sur cette partie de la loi. Mais avant même sa mise en application le 1er juillet, des effets se font ressentir sur les réseaux sociaux. Et cette semaine, du coup, en à peine une semaine, une quinzaine de comptes de militants et de militantes ont été suspendus de Twitter et de Facebook de quelques heures à plusieurs jours. Leur point commun, c'était donc, comme je vous l'ai dit au début, à chaque fois le terme PD a été employé dans les publications mises en cause. Pour vous donner des exemples, par exemple, il y a quelqu'un qui a tweeté « C'est pas la loi Avia qui me rendra moins PD ». Et du coup, cette phrase, ajoutée à sa photo de profil Facebook via un filtre, lui a valu d'être interdit de commenter ou de publier pendant 3 jours. Peu après, un autre compte a été restreint pendant 24 heures pour une photo de couverture sur laquelle sont décrits les mots « Gwyn trans PD » sur fond rose. Paf, le compte a sauté pendant plus de 24 heures. Donc pour Twitter et Facebook, donc l'usage du terme PD est considéré comme allant à l'encontre des règles relatives aux conduites et discours haineux. Mais alors on tient quand même à rappeler qu'utiliser le mot PD ou Gwyn pour se définir fait quand même partie de l'histoire des luttes LGBT afin de retourner le stigmate. Et que voir le discours... Leur discours politique censuré, c'était exactement ce que craignaient les militants et les militantes après l'adoption, du coup, ce 13 mai, de la loi Avia pour lutter contre la haine en ligne. Donc on se rend bien compte que dès sa première utilisation, avant même que la loi doive être appliquée dans les faits, ce qui est censuré, ce sont les militants et les militantes et pas les discours haineux. Selon l'avocate Caroline Mécari, ces injustices risquent de se répéter à l'avenir car, lorsque la loi Avia sera appliquée, pour de vrai, elle déléguera le pouvoir de choisir ce qu'on a le droit de dire ou non à des entreprises privées, alors que la liberté d'expression ne devrait être commentée que par un juge dans le cadre d'un débat contradictoire. L'emploi des mots dépend aussi du contexte, ce n'est pas un algorithme qui peut l'analyser. On va en fait assister à un polissage des discours pour ne pas être censuré de manière injuste. Ça va faire naître une nouvelle langue de bois. Cela montre à quel point cette loi est liberticide et qu'elle doit être abrogée. Donc voilà, pour vous montrer un peu deux aspects de la loi Avia. Son aspect actuel, que même si on prend juste le reste du texte de cette loi contre la haine, on se rend compte qu'elle stigmatise dès maintenant des militants et des militantes. Et que lors de son application le 1er juillet, si le Conseil constitutionnel ne change pas la loi, ça permettra aussi de bloquer des sites, donc comme on le rappelle, en une heure. Bienvenue dans le monde d'après.
Canu Info du vendredi.
Car tu m'es cher, je ne compte pas, je ne compte plus. Comme tu m'éclaires au nucléaire, j'ai le ciel bleu. Tu me ramènes quand je déraille un jour sur deux.
Radio Canu 102.2.
EDF devant le tribunal de Bourg-en-Bresse ce matin. L'entreprise est poursuivie par plusieurs associations pour défaut de surveillance et entretien insuffisant sur certaines installations secondaires de la centrale nucléaire du Bugey. Négligence qui ont abouti, selon le collectif Sortir du nucléaire, à une fuite d'effluents radioactifs fin 2017.
Voilà notre problème, capitaine. Ces petits points lumineux sont des bulles de radiation.
Et oui, vous l'aurez compris, aujourd'hui, on va revenir sur une histoire dont on vous a déjà parlé. Donc, et c'était fin février de cette même année. Et on vous avait fait un petit sujet à la sortie d'une audience de Bourg-en-Bresse. Et oui, parce que pour une fois, l'État avait décidé de poursuivre EDF après qu'une plainte ait été déposée par plusieurs associations suite à des rejets radioactifs dans l'environnement de la centrale du Bugey, qui, je le rappelle, est très proche de Lyon puisqu'elle est à 35 km. Et donc, petit rappel des faits, 20 décembre 2017, EDF détecte une concentration anormale de tritium dans la nappe phréatique sur le site de sa très chère centrale. Donc dans le Bugey, des concentrations élevées de cette substance radioactive qui peut provoquer, je rappelle, de graves dommages à l'ADN ont été détectées les jours suivants et à d'autres endroits du site. Et il est fort probable que d'autres éléments radioactifs et des produits chimiques aient été rejetés en même temps, donc, puisque le tritium ne se balade pas tout seul. Et je rappelle quand même qu'une centrale nucléaire aussi, c'est une grosse usine chimique en même temps qu'une grosse usine de radioactive. Et tout ça, eh ben, ça s'est gentiment déversé dans le Rhône, à laquelle la nappe est connectée.
Alors, l'origine de cette fuite radioactive, eh ben, en fait, lors d'une opération de transfert de substances radioactives depuis le bâtiment réacteur vers les réservoirs de stockage, un jour, il pleuvait très très fort, un clapet est resté en position ouverte et deux pompes n'ont pas fonctionné. Du coup, bah, tous les effluents radioactifs ont débordé et tout ça a été envoyé vers des canalisations qui n'étaient pas étanches. Évidemment, bah, comme tout ce qui n'est pas étanche, bah, ça a fui. Alors, une inspection de l'autorité de sûreté nucléaire a remonté le fil de cet événement, savoir un peu comment ça s'était produit, comment c'était arrivé, tout ça. La conclusion, c'est que bah, la pollution était la conséquence d'une grosse chaîne de dysfonctionnements. Défauts de surveillance, dispositifs qui ne permettent pas la détection automatique des fuites, absence de réaction rapide d'EDF, entretien insuffisant du matériel. Faut savoir que le clapet en question n'avait pas été entretenu depuis 1992. Une belle longue liste. Donc, et encore une fois, et ben c'est qui paye les merdes des industriels? Et ben c'est l'environnement.
Et oui, et cette fuite de tritium n'est malheureusement pas un incident isolé, puisque c'est la troisième en l'espace de 6 ans sur le site du Bugey. Donc, et il faut aussi savoir que c'est le haut de l'iceberg en termes de saccage de l'environnement passé discrètement. Alors, souvenez-vous des fameux pets silencieux de la centrale, des pets au cobalt 60, s'il vous plaît. Et ce n'est qu'un exemple parmi d'autres problèmes. C'est tout l'état général de la centrale du Bugey et la manière dont elle est dirigée qui a de quoi inquiéter.
Voilà, alors du coup, histoire d'alerter et de mettre au grand jour ce que EDF aimerait bien passer sous silence, donc cette nouvelle pollution radioactive des eaux, le réseau Sortir du nucléaire, Rhône-Alpes sans nucléaire, Sortir du nucléaire Bugey et Sortir du nucléaire Isère ont tous les quatre déposé plainte le 7 mars 2018 devant le procureur de la République de Bourg-en-Bresse pour pas moins de 10 infractions au code de l'environnement et à la réglementation qui est relative aux installations nucléaires. Alors le parquet a décidé d'engager des poursuites contre EDF, c'est hyper rare, et l'affaire était examinée par le tribunal de police de Bourg-en-Bresse, donc le 28 février 2020, il y a tout pile 3 mois. Et donc pourquoi est-ce qu'on vous en parle aujourd'hui ? Et bien parce que c'est cette semaine que le jugement est tombé. On laisse la bonne nouvelle être annoncée par Radio B, qui était venu à la sortie du tribunal et qui a interviewé un militant local. Un extrait donc des bonnes ondes de Radio B avec leur émission À vous les Burgiens, qui passe tous les lundis à 18h pour une heure d'info.
EDF a été condamné pour une fuite d'une substance radioactive à la centrale du Bugey. L'entreprise doit payer deux amendes de 1500 euros et deux fois 1000 euros de dommages et intérêts pour les parties civiles. L'événement date de décembre dernier. Cette pollution radioactive avait contaminé la nappe phréatique. Le délibéré a eu lieu vendredi dernier au tribunal de Bourg-en-Bresse. Et c'est l'association Réseau Sortir du Nucléaire qui avait porté plainte notamment. En février, nous avions rencontré, à la sortie du procès, Joël Guéry, membre de Sortir du Nucléaire Bugey. Il nous explique l'importance de ces plaintes contre EDF.
C'est quand même de montrer du doigt qu'il y a eu une pollution de la nappe. C'est pas réglementaire, ça part dans la nappe, on ne sait pas non plus exactement combien il y en a qui essayent de minimiser la quantité, mais c'est quand même une pollution, donc c'est attaquable. Ce qu'il y avait surtout derrière, c'est qu'il y a d'énormes défauts de maintenance qui sont apparus, puisqu'il y avait une pompe qui était déficiente depuis avril 2016 et qu'elle n'était toujours pas remplacée en décembre 2017. Alors l'argument du responsable juridique d'EDF de dire que c'est un défaut du constructeur et que c'est le temps du constructeur pour faire, c'est quand même complètement bidon, parce que avril 2016, décembre 2017, ça fait une année et demie, presque deux. Donc je pense qu'un constructeur doit être plus réactif que ça normalement. Donc c'est bien des défauts de maintenance et on a plein d'autres cas où il y a d'énormes défauts de maintenance. On sent qu'EDF n'a plus d'argent et tire sur tout actuellement. Ce qui est important, c'est de faire ressortir que EDF a un double discours. On nous dit que le nucléaire, la sûreté est au maximum, etc. C'est pas du tout le cas. Il y a sans arrêt des incidents, il y a beaucoup de défauts de maintenance et par une petite cascade d'incidents, on a le risque d'un accident. Et puis on a le fait aussi que maintenant, la centrale du Bugey va être la plus vieille centrale de France, puisque les deux réacteurs de Fessenheim, qui avaient un an de plus que celle de Bugey, sont en train de fermer. Donc à partir de juillet, la centrale de Bugey est la plus vieille de France.
C'était Joël Guéry, membre de l'association Sortir du Nucléaire Bugey.
Merci Joël.
Vous êtes bien sur Radio Canu.
Et merci Radio B. Donc pour se remettre dans l'ambiance en fait, il faut se rappeler l'attitude hyper choquante d'EDF lors de l'audience qui n'avait cessé de se chercher des excuses. Avocat grandiloquent, certaines pédances et pédances certaines et surtout une mauvaise foi incroyable. Les représentants d'EDF n'ont eu de cesse d'insister sur la quantité minime déversée dans l'environnement, sur le fait que le tritium était reparti dans le Rhône comme prévu, juste pas par la bonne voie, et sur le côté involontaire, donc comme si ça effaçait leurs actes. Ils n'ont jamais voulu reconnaître qu'ils avaient fait des erreurs et qu'ils avaient juste pollué l'environnement.
Oui, ce n'est pas une pollution, c'est un événement significatif pour l'environnement.
Extrait de l'audience. Alors, il faut aussi se rappeler que EDF, lors du procès, a demandé que si dommages et intérêts il y avait, ce serait un euro symbolique et ce serait à partager entre les quatre assos de l'environnement qui s'étaient portés partie civile, puisque celle-ci ne parlait que d'une seule voix. Alors face à ça, c'était assez surréaliste aussi. Il faut se rappeler l'attitude de la procureure qui certes attaquait le géant, mais qui avait presque l'air de s'excuser. La juge a posé beaucoup de questions, donc ça c'était plutôt beau signe, mais on ne sait jamais, et des fois, et même bien souvent, malgré toutes les preuves et les faits, les exploitants nucléaires s'en sortent sans être condamnés, ce qu'on appelle l'impunité.
Mais du coup c'est quand même plutôt une bonne nouvelle, donc on peut tous se réjouir ici.
Ouais, youpi ! Donc ça fait du bien quand même. Mais bon, donc pour la petite histoire, on sait que EDF est condamné pour toutes les infractions et doit payer 3000 euros, mais impossible d'avoir le détail du jugement. Le parquet a clairement refusé de nous le communiquer par mail ou par téléphone, et même aux plaignants, alors que d'habitude ça se fait sans problème. Alors là, c'est consultation uniquement sur place, donc avec tout ce qu'on nous dit en parallèle sur les déplacements, les contacts, les distances sociales, là franchement c'est assez hallucinant. Mais bon...
Oui, donc
Donc EDF est quand même condamné. Mais après, bien sûr, on peut se dire que 3000 balles pour avoir rejeté des déchets radioactifs dans le Rhône, faute d'avoir correctement entretenu et surveillé son usine, c'est quand même très peu cher payé. Quand on voit les sommes des amendes adressées aux particuliers, 3000 euros, ça fait vraiment, vraiment, vraiment très dérisoire. C'est limite, c'est juste symbolique. Et surtout pour un tel monstre comme EDF.
Et alors non seulement le monstre EDF a une attitude lamentable face aux accusations, non seulement ce qu'elle a payé pour avoir pollué l'environnement n'est pas du tout à la hauteur du dommage qu'elle a causé, mais en plus la méga entreprise reine du lobby de l'énergie atomique a le culot de faire appel. Et oui, 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 on l'a appris aujourd'hui, donc ça veut dire que l'affaire va être réexaminée. Tout ce qu'on peut espérer, c'est qu'ils se prennent bien plus cher en dommages et intérêts. En tout cas, ça donne une bonne raison de rester aux aguets. Vous pouvez compter sur les Canu Info pour vous tenir informés, évidemment sur vos sites préférés, Rébé et le réseau Sortir du Nucléaire. Et surtout, surtout, tout ça, ça nous fait à tous et toutes une excellente bonne raison d'être prêts et prêtes à se mobiliser bientôt.
Et contre le nucléaire, il y en a déjà certains et certaines qui se mobilisent. En effet, des militants et militantes antinucléaires ont mené plusieurs actions simultanées à Paris. Attention, je rigole pas, Saint-Paul-les-Châteaux dans la Drôme, pas loin de quoi ? Eh ben, de la centrale du Tricastin. Et aussi à Lyon ce jeudi 28 mai pour dénoncer la prolongation du fonctionnement du réacteur numéro 1 de la centrale du Tricastin au-delà de 40 ans. Pourquoi c'est pas bien du tout de prolonger au-delà de 40 ans ? Eh bien parce que ça revient à rogner sur les marges de sûreté de la centrale nucléaire, et notamment parce qu'il y a un risque croissant de rupture brutale de la crise, de la cuve bien entendu, parce qu'il y a une vingtaine de fissures sur cette pièce d'acier, mais c'est compliqué parce qu'avec la buée sur mes lunettes, tout ça, c'est un merdier pour les vacances. Mais du coup, la cuve va peut-être casser parce qu'il y a une vingtaine de fissures, il y a des défaillances dans le système de résistance au séisme, alors même qu'il y a des secousses qui ont été enregistrées l'année dernière sous la centrale, des retards dans les travaux de renforcement de la digue et compagnie et compagnie et compagnie. Et donc du coup pour ça, et ben jeudi à vers 11h45, il y a 8 militants et militantes avec des masques espacés d'un mètre, nanani nanana, qui ont déployé une banderole 40 ans ça suffit, débrancher la centrale nucléaire du Tricastin devant le siège social d'EDF, et ils et elles ont déposé une maquette d'où s'échappait une fumée verte. La même chose un petit peu s'est passé tout près de la centrale du Tricastin à Saint-Paul-Trois-Châteaux dans la Drôme et devant le siège de la division régionale de l'autorité de sûreté nucléaire à Lyon.
Et arrêtez de tripoter votre enceinte. Ce petit craquement que vous entendiez n'est absolument pas un problème technique. C'est le masque de Lebowski qui gratte le micro.
Canu Info.
Et dis pas de mal des cochons.
Mais ça pue un cochon.
Violence policière. Canu Info.
La police assassine, les hommes de droite, nous sommes amis, la police mutile.
Violence policière.
La situation a été tendue ce matin encore, vendredi, à Minneapolis, après une troisième nuit d'affrontement avec la police, donc consécutive à la mort de George Floyd, un Afro-Américain de 46 ans. Qui a été violemment arrêté et étouffé par un flic, le tout sous la vidéo d'un smartphone qui est devenu viral sur Internet, ce qui a provoqué trois nuits d'émeutes, notamment dans la ville de Minneapolis, où a eu lieu ce crime policier. Trois jours d'émeutes. Les manifestants ont incendié jeudi 28 mai au soir un commissariat de Minneapolis, au nord donc des États-Unis, commissariat donc qui a pris feu, et on voit notamment sur des vidéos fort réjouissantes les flics en train de sortir très rapidement avec leur voiture de ce commissariat. La vidéo est vraiment marrante, je vous la conseille, elle est sur tous les réseaux sociaux et sans doute sur YouTube aussi par exemple. Cartman ou Donald Trump a tweeté juste derrière: ces voyous déshonorent la mémoire de George Floyd et je ne laisserai pas faire cela. J'hésite parce qu'il écrit vraiment mal, Donald, en référence donc aux émeutes, et il continue en disant: je viens juste de parler au gouverneur Tim Walz et je lui ai dit que l'armée est à ses côtés tout du long. Au moindre problème qu'on
les pillages commencent, les tirs commencent. Merci. Merci Cartman. Donc, citation de Trump quand même, qui est directement inspirée d'un certain Walter Hedley, qui était un chef de police raciste blanc de Miami et donc qui avait dit « Quand le pillage commence, le tournage commence ». Voilà donc citation directement liée à un suprémaciste blanc. Et quoi qu'en dise Trump, une trentaine de magasins ont été pillés à Minneapolis hier soir et des distributions gratuites ont été organisées dès ce matin. Distribution gratuite des butins donc. La colère a aussi gagné d'autres villes américaines. À Saint-Paul, toujours dans le Minnesota, près de 200 entreprises ont été attaquées, certaines endommagées, d'autres pillées. Des manifestants ont bloqué également une autoroute à Denver, qui n'est pas le dernier dinosaure, mais une ville aux États-Unis. Dans le Colorado aussi, une autre à Columbus dans l'Ohio, où les manifestants ont également caillassé la maison d'État. D'autres ont défié les ordres de confinement à New York et Chicago, qui étaient donc des villes encore sous confinement, et il y a pourtant eu beaucoup de monde dans la rue. Par ailleurs, là aussi la vidéo est assez incroyable, une équipe de la chaîne américaine de CNN, qui sont tous sauf des camarades, a été arrêté, le journaliste, par la police devant les caméras de CNN, qui étaient en direct quand même. Voilà, on voit le type qui se fait mettre des menottes et puis qui est embarqué. Et puisqu'on parle couverture médiatique de ces événements, force est de constater que les médias français documentent très très bien cette mise à mort par la police et les émeutes qui s'en suivent. On en parle plutôt pas mal, on voit les images sur les chaînes d'info françaises. Et donc ça va un peu à rebours de l'équation traditionnelle qui dit plus qu'un événement se passe loin, moins on en parle. Et bien ici, on pourrait plutôt dire que... quand la police des autres pays est mise en cause, on en parle, et plus on en parle. Et on avait déjà vu ça, alors une équation un petit peu différente, mais ça nous fait penser un petit peu à la documentation des manifestations et des émeutes hongkongaises, où sur France 2, par exemple, on louait l'inventivité du Black Bloc hongkongais. De quoi être surpris? Et pour l'éditorialiste français, donc, les flics tuent à l'étranger, et l'émeute à l'étranger aussi, a un caractère éminemment politique. Sauf que, les crimes policiers, il y en a aussi en France, et que, évidemment, et vous le savez bien, il y en a même beaucoup, et on n'en parle jamais de la même manière, puisque pendant, par exemple, je disais, il y en a beaucoup, puisque, par exemple, pendant les deux mois qu'a duré le confinement, il y a un très bon article sur l'excellent site Rébellion qui en parle, 12 personnes ont été tuées en France par la police. Ce qui est un triste record absolu, puisque c'est à peu près la moyenne sur cette dernière décennie de personnes qui sont tuées par la police par an. Donc là, c'est en deux mois. Essentiellement, de jeunes hommes noirs et arabes. Chers collègues, donc, et là, je parle aux journalistes, puisqu'on est ici aussi au Canu en Feu du vendredi, d'éminents journalistes, vous pouvez aussi parler de crimes racistes quand il s'agit de la police française. Et puis, vous pouvez éviter de parler de bavures policières quand vous parlez du bout des lèvres de ceci, ou à pleine bouche quand c'est aux États-Unis. Il ne s'agit pas du tout de bavures. Aux États-Unis, par exemple, il y a plus de 1000 personnes qui sont tuées par la police par an. Et ben donc, dans ce cas-là, ce n'est pas une bavure, c'est-à-dire une exception. C'est juste systémique. Et c'est donc caractéristique du maintien de l'ordre violent que l'on retrouve aux États-Unis ou en France. Et par exemple, en France, cette semaine, un jeune garçon de 14 ans qui a été arrêté par la police alors qu'il tentait de voler un scooter, sans doute une bonne raison pour lui défoncer la gueule. Ses parents l'ont retrouvé à l'hôpital et à l'heure où je vous parle, on ne sait toujours pas s'il va garder son œil puisqu'il a eu une fracture de l'orbite. Voilà, donc ça, c'était cette semaine. Et des comme ça, il y en a toutes les semaines. Et ça fait des décennies que ça dure et ça ne fait qu'augmenter, ça ne va qu'en s'aggravant. Voilà. Alors, et quand ça se passe, en France aussi, comme aux États-Unis, sauf que là, on le voit beaucoup moins sur les chaînes de télé françaises, lorsqu'il y a un mort, lorsqu'un frère meurt, souvent il y a des émeutes qui explosent dans ces quartiers populaires, puisque c'est souvent dans les quartiers populaires qu'ont lieu ces meurtres. Et là aussi, les forces de police sont attaquées, et puis parfois les commissariats, ils brûlent aussi. Et si on peut, à raison, comme le font certaines et certains, s'interroger sur les leçons politiques que l'on peut tirer de ces moments d'émeute, leur retirer leur caractère éminemment politique, comme s'emploient à le faire nos éditorialistes et journalistes, c'est continuer à porter cette idée dégueulasse qui consiste à dire que ne sont politiques que les discours
qui portent en eux une idéologie et des débouchés politiques, des visions concrètes, etc., etc. Il y a dans les gestes aussi, et peut-être même surtout, lorsque l'on jette dans la bataille beaucoup de ce que l'on est, une portée qui est éminemment politique. Oui, oui, monsieur. C'est ce qu'avaient déjà compris les Black Panthers, par exemple, qui avaient réussi à mêler cette rage émeutière avec les interventions politiques de solidarité qui redonnaient de la force et de la fierté aux communautés. Leurs gestes aux Black Panthers, par exemple, ou à d'autres, n'ont jamais été oubliés, comme l'ont montré, par exemple, les formes d'auto-organisation dont on parlait tout à l'heure à ce micro pendant le confinement, formes d'auto-organisation solidaires qui se poursuivent jusqu'à aujourd'hui et qui s'inspirent largement des gestes qui ont été portés à cette époque. Et je crois qu'on est en retard, mais on s'en fiche, puisqu'ensuite c'est une émission de musette.
Visible et disponible, libre et irréductible.
Canu, info.
Et invisible et disponible, libre et irréductible.
Attitude féministe.
Canu Info du vendredi. Et je vous fais aujourd'hui un simple teaser, parce que vous l'avez compris, on est en retard. Mais il y a une journée d'action féministe qui est prévue le 8 juin partout sur le territoire. Il y a une tribune qui est écrite et signée par plusieurs assos féministes que vous pouvez retrouver notamment sur le site du Planning Familial, qui s'intitule « Face à la crise sanitaire, économique et sociale, un plan d'urgence féministe ». Donc vous retrouvez les revendications. Et puis comme vendredi prochain, on est le 5 juin, on pourra vous en parler plus en avant pour vous dire plus précisément l'action qui sera prévue le 8 juin.
Et on fait quoi maintenant ?
Devine, mon premier est une personne qui n'a pas mangé. Mon second est, oui, en russe. Et mon tout est un outil permettant d'associer des actions et des moments et d'organiser ainsi son temps. C'est...
L'agenda !
Alors voilà, c'est qu'on est toujours en retard, mais qu'on avait trop envie de vous dire qu'il y a un agenda et que c'est quand même trop cool. Et que par exemple, mardi prochain, eh ben, vous pouvez participer au Mardi de la Colère. Comment ? Eh ben, à 12h30, vous pouvez aller au pique-nique revendicatif devant HEH. HEH, c'est l'hôpital Édouard Herriot. Et à 14h30, partir en manif pour aller devant le Vinatier. C'est super. Et en même temps, le mardi, il y a aussi la permanence conviviale à... le collectif Solidarité QC, vous retrouvez toutes les informations sur Internet. Jeudi, il y a le marché rouge de la Guillotière et il y a aussi la permanence à QC, la permanence de distribution alimentaire. On vous a dit le 8 juin, mobilisation féministe. Le 16 juin, mobilisation nationale pour les services publics. Et on vous en reparlera le 17 juin. Il y a un appel à agir contre la réintoxication du monde partout en France.
Et c'est le grand jeu. On aime la police.
Radio
Radio Canu, Canu Info du vendredi.
Alors, vous pouvez répondre à Mathieu, s'il vous plaît.
Oui, Mathieu, coucou. Ce soir, ACAP, ça veut dire alerte colon arrive au budget.
Très bien, et ben merci beaucoup. C'était le premier Canu Info du vendredi en sortie de confinement. Et maintenant, donc, de la musette avec Noise Pollution.